commence un livre dès la première page. Je fais connaissance avec des personnages. Je m'embarque avec eux dans de drôles d'aventures, passé, présent et parfois même futur. Un livre ça délivre, ça détend et ça rend ivre. Plongé dans un bouquin, ça change et ça fait du bien. Fini les galères, fini les misères. J'oublie mes soucis, j'oublie même qui je suis. Et d'un seul coup.
Bonjour. Un livre ? Oui, mais quel livre ? Eh bien, l'Oiseau Délire est là pour vous aider, pour partager avec vous nos coups de cœur. Et en ce moment, on croule sous les coups de cœur. Il y a plein de nouveautés qui arrivent et on va vous en présenter quelques-unes aujourd'hui pour vous donner envie de lire.
Bonjour, alors on commence avec le seul roman d'aujourd'hui. C'est vraiment un très très gros coup de cœur à la librairie d'Annie et de moi, une auteure qu'on aime beaucoup. Et comme il fallait en choisir un, on a choisi celui-ci pour aujourd'hui. Il s'agit de La Bobine d'Alfred, de Malika Ferduc aux éditions École des Loisirs. Alors, Harry vivait à Paris jusqu'à ce qu'une grande dame propose à son père de devenir son cuisinier personnel. C'est sur cette base que Harry, sans trop savoir comment, se retrouve à vivre en Californie, dans une villa au pied de la colline d'Hollywood. Peu de temps après son arrivée, le père du garçon est embauché par un mystérieux personnage, un mystérieux ami de la grande dame, et il part travailler toutes les nuits et rentre aux aurores. Harry va chercher à savoir ce que fait son père, et un soir, il va le suivre et va se retrouver au hangar numéro 17 et devient le témoin d'un tournage top secret du grand réalisateur Alfred Hitchcock. Un tournage tellement secret que le film a un faux nom et qu'Alfred Hitchcock a un pseudonyme. Harry va vite comprendre qu'il n'aurait jamais dû percer ce mystère et encore moins chercher à voir les premières minutes de la bobine. Alors, cette bobine d'Alfred Hitchcock est une véritable légende dont s'est inspirée Malika Ferduc. Il s'agit en fait de l'adaptation qu'aurait souhaité faire et qu'aurait commencé Alfred Hitchcock de Marie-Rose, une pièce de James Matthew Barry, l'auteur de Peter Pan. Cette bande n'a jamais été finie. Je ne sais plus exactement si elle a même été commencée, mais il y a vraiment une légende. Et avec ce roman, Malika s'approprie cette légende et en fait sa propre version. Je vais vous lire un extrait du chapitre numéro 5, qui est au moment où Harry entre dans le hangar numéro 17. D'abord, je ne distinguais rien qu'une brume suffocante crachée par de géants ventilateurs, des silhouettes fantomatiques allant et venant. J'ai attendu que mes yeux s'habituent. Tu es un resquilleur ou un saboteur ? Une fille de mon âge, habillée comme la petite Dory, me dévisageait par une trouée dans le brouillard. « Tu parles que je vais te le dire », répliquai-je, affectant une nonchalance censée me donner l'air sûr. « Tu me crois idiot ?»« Je refuse de répondre à cette question. Je pourrais bien me tromper. » Ses incisives écartées lui dessinaient un sourire frondeur et elle avait le nez pointu des nattes blondes. Elle me tendit un petit plateau où subsistaient quelques biscuits. « Lequel est à l'arsenic ?» demandai-je. « Probablement celui qui a l'air le plus appétissant. » Elle en enfourna deux. « Le cinéma est une nourriture à ce qu'on prétend. Personnellement, je préfère 3 repas par jour. »« C'est quoi ce film ?»« Mary Rose. Tu as un accent drôlement français. » Marie-Rose, comme l'antipou ? Elle ne comprit pas, bien sûr. Et je ne connaissais pas l'équivalent américain. C'est avec qui ? Repris-je. Quel metteur en scène ? Elle fronça les sourcils. Si tu l'ignores, c'est bien que tu es un resquilleur ou un saboteur. Ou les deux. Je le connais, le metteur en scène, fis-je, exaspéré. C'est Albert Hall. Elle me ricana au nez. Je grognai. Tu m'énerves. Tu saurais faire quelque chose d'autre ? Je joue la comédie. « Mon nom est Madeleine Barton. Retiens-le. Je suis la future Ingrid Bergman. » Elle me tourna le dos et s'éclipsa dans les limbes. Avec la bobine d'Alfred, Malika Ferduc nous livre donc sa version. Avec son écriture habituelle, donc un ton particulier qu'on adore beaucoup, décalé, drôle. Et toujours dans ses romans, on a un mystère, une enquête au fil des pages. Les personnages sont en couleur, comme vous avez pu le voir, piquants et avec une répartie à toute épreuve, qu'on aimerait vraiment avoir.
un album de Fred Bernard et François Rocca, Rose et l'automate de l'opéra, aux éditions Albin Michel. Fred Bernard et François Rocca sont deux artistes que l'on suit avec grand plaisir. Fred écrit, François illustre, et c'est toujours grandiose. Des albums pour les plus grands, et c'est bien de savoir qu'il y a des albums aussi pour les grands. Depuis combien de temps suis enfermé dans le noir? Je ne sais pas. Abandonné, démonté, éparpillé, un rayon de soleil, de la lumière et un minois de petits rats. Qui suis-je? Animal, machine, pantin, je ne sais plus. Pas humain, c'est certain. Fabriqué à la main, il y a longtemps, je me souviens. Mes premiers pas ici, dans l'opéra, puis tour du monde. Jeune fille, vous m'avez souri. Quelle tête ai-je après tant d'années? Aurais aimé vous sourire aussi. Impossible, bloqué. M'avez caressé, dépoussiéré. J'aurais aimé vous embrasser, parler, vous remercier. Vous m'avez reposé, refermé sur moi le couvercle de la malle. Effondré, j'étais. C'est l'automate qui nous raconte son histoire. Il a oublié ou presque oublié le langage. Mais peu à peu, grâce à Rose et à Monsieur Maréchal qui va peu à peu lui redonner vie, il reprend vie, il réapprend le langage. Et dans ce théâtre, dans cet opéra, et l'opéra est presque est à part entière dans cet album. François Rocca a beaucoup observé et beaucoup dessiné l'opéra dedans. Il va redevenir l'automate peu à peu qu'il était, un automate qui était capable de danser mieux que les ballerines. On m'appelait Hermès, comme le dieu grec au pied ailé. Avant chaque représentation, Louise m'aidait à enfiler mon costume de scène, me coiffait, me maquillait, me mettait du rose aux joues. Sous les yeux médusés des spectateurs, je réalisais des chorégraphies, des vrilles et des bonds extraordinaires, avec une souplesse et une rapidité impossibles pour un humain. Mais je dansais toujours seule sur la musique d'un orgue ou d'un orchestre. Donc peu à peu, il retrouve cette souplesse et peut-être arrivera-t-il à danser et non plus seul, mais peut-être avec Rose. Un superbe album et découvrir aussi tous les autres albums de Fred Bernard et François Rocca. Ils sont tous extraordinaires. Mais ce qui est important aussi dans cet album, c'est l'illustration. Et là, je laisse Charlotte vous en parler.
Donc voilà, j'ai aujourd'hui la dure tâche de vous parler des illustrations à la radio. Je vais essayer quand même. Donc il faut savoir que cet album de Fred Bernard et François Rocca, comme beaucoup de leurs albums, est en grand format, ce qui permet de profiter vraiment au mieux des grandes illustrations de François Rocca qui sont en pleine page pour la plupart du temps. Dans la peinture, on ressent vraiment la véracité des images, comme le disait Annie. Il a vraiment visité des opéras et on sent la justesse, notamment sur une page où il y a tous les tutus des danseuses qui sont accrochés au plafond. On ressent vraiment l'opéra. Mais ce qu'on ressent aussi énormément, ce sont les influences de François Rocca qu'il admet, qu'il cite à la fin de l'album et notamment pour celui-ci, Hopper. Parce que les personnages, en fait, sont seuls dans des grands espaces, ce qui donne l'impression d'un personnage suspendu dans le temps qui donne vraiment une aura de mystère à ses peintures qui ajoute encore un cachet phénoménal à ses albums.
À Ernesto de Marguerite Duras, illustré par Cathy Coupry, aux éditions Thierry Magnier. Oui, un texte de Marguerite Duras pour les enfants, son seul texte pour les enfants que Thierry Magnier a tenu à rééditer. Ernesto va à l'école pour la première fois. Il revient. Il va tout droit trouver sa maman et lui déclare « Je ne retournerai plus à l'école ». La maman s'arrête d'éplucher une pomme de terre. Elle le regarde. « Pourquoi ?» demande-t-elle. « Parce que, » dit Ernesto, « à l'école, on m'apprend des choses que je ne sais pas. En voilà une autre, dit la mère en reprenant sa pomme de terre. Lorsque le papa d'Ernesto rentre de son travail,
La maman le met au courant de la décision d'Ernesto. « Tiens, » dit le père, « c'est la meilleure. » Le lendemain, le papa et la maman d'Ernesto vont voir le maître d'école pour le mettre au courant de la décision d'Ernesto. Le maître ne se souvient pas particulièrement d'un quelconque Ernesto. « Un petit brun, » décrit la mère, « 7 ans, des lunettes. Fait pas grand bruit, il faut dire. Mais quand même. « Non, je ne vois pas d'Ernesto, » dit le maître après réflexion. « Personne ne le voit, » dit le père. « N'a l'air de rien. « Amenez-le-moi, » dit le maître. Le surlendemain, le papa, la maman et Ernesto se retrouvent devant le maître d'Ernesto. Le maître regarde Ernesto. « C'est vous, Ernesto ?» demande-t-il. « Exact, » dit Ernesto. « En effet, » dit le maître, « en effet. Je ne vous reconnais pas. « Moi si, » dit Ernesto. La maman montre Ernesto et hausse les épaules. « Vous voyez tout de suite le genre, » dit-elle. Après quoi, chacun se tait, le maître réfléchit, le papa aussi. Donc un ton comme cela qui m'a fait penser à moi, à Prévert, et à Charlotte aussi. Donc je me suis dit, c'est pas seulement mon grand âge, c'est vraiment un ton que l'on aime dire à voix haute. C'est très très agréable à lire, à dire, et les illustrations de Cathy Coupry sont quelque chose d'assez extraordinaire. Charlotte.
Effectivement, Cathy Coupry le dit elle-même, l'action à Ernesto était quasiment impossible à illustrer puisqu'il s'agit d'un huis clos avec le maître, les parents et Ernesto, pas beaucoup d'action. Donc elle a pris le parti en fait d'illustrer un peu à la manière d'une encyclopédie, cet album. Donc les planches représentent tout ce qu'on peut apprendre à l'école. Donc on a des lettres, des animaux, des fleurs, des coquillages, vraiment très voilà, encyclopédique. On a différents types d'illustrations. Il y a de la gravure en noir et blanc ou aquarellé, des formes découpées et notamment des lithographies. Donc la lithographie, c'est un procédé qui permet de reproduire au plus près, en impression, le trait de l'illustrateur. Donc on a vraiment le coup de crayon et cette impression un peu sale que laisse l'imprimerie. Les différentes techniques rassemblées rappellent les cabinets de curiosité. Ces salles, presque ces musées que faisaient des explorateurs qui rassemblaient tout un tas d'objets, des animaux empaillés, des cartes, des choses un peu étranges comme ça qui ramenaient d'exploration. Ça donne vraiment un album avec une ambiance particulière, moderne et en même temps classique. Ce sont vraiment des superbes illustrations et Cathy Coupry a réussi à illustrer un album qui était, de prime abord, assez compliqué à faire.
N'y a-t-il personne pour se mettre en colère ? Aux éditions Albin Michel, l'album de Tone Telgen est illustré par Marc Boutavant. C'est plusieurs petits textes avec des animaux qui se mettent en colère, tout sur la colère. On a le daman, le ver de terre, le scarabée, la souris, le hérisson, la musaraigne et d'autres. Tous ces animaux essaient de se mettre en colère. Et qui fait aussi le charme de cet album, c'est le ton et les illustrations. Donc juste un tout petit extrait de La colère de l'éléphant. « Non, ne grimpe pas, » se dit l'éléphant à lui-même, un après-midi alors qu'il se tenait sous le peuplier. Il était couvert de grosses bosses à l'arrière de la tête, sur le dos et sur le nez. Il posa un pied sur la branche la plus basse. « Qu'est-ce que je t'ai dit ?» se fâcha-t-il. « Ne grimpe pas, » reprit-il à voix basse. « Et qu'est-ce que tu es en train de faire ?»« Je grimpe. » « Repose le pied par terre !» « Non, » murmura-t-il en baissant la voix. Il régnait dans le bois un silence moite, le papillon dormait dans le rosier et, rasant les arbres, l'hirondelle tournoyait dans le ciel. L'éléphant posa les 3 autres pieds sur la branche la plus basse du peuplier. « Cette fois, je vais vraiment me fâcher, » dit-il. « Redescends !» Il se tut. « Redescends ? Tu m'as pourtant bien entendu. Combien de bosses as-tu déjà ? Il t'en faut combien encore ? Tu tiens donc tant à te casser quelque chose ?»« Non, » souffla-t-il. « Je ne veux rien me casser. Ta cervelle, en tout cas, elle est déjà bien cassée, » dit-il, sarcastique. « Oh, ma cervelle, » murmura-t-il en haussant prudemment les épaules, « ce n'est pas avec elle que je grimpe. » Il grimpa sur la branche suivante et d'un coup de trompe se donna une grande, grosse claque et une deuxième. « Tu ne m'écoutes pas, » cria-t-il, « redescends. » « Si, je t'écoute, mais je ne t'obéis pas. Je veux grimper, grimper, grimper. » De colère, sa voix se brisa dans un couac. Et donc, plein de petites histoires comme cela sur la colère avec des animaux et des illustrations de Marc Boutavant, dont Charlotte est folle.
Oui, effectivement, j'adore cet illustrateur. C'est entre autres l'illustrateur de MOOC, qui est adapté à la télévision sur France 5, je crois, et qui a un dessin très coloré. C'est quasiment exclusivement des animaux. Je ne sais pas s'il choisit ses albums pour ça, mais il illustre très souvent des albums avec des animaux. Et ces animaux ont des grands yeux et les joues roses, ce qui donne vraiment des albums gays, même pour parler, comme ici, de la colère.
Eh bien, nous nous retrouverons dans 15 jours pour parler peut-être plus de romans, toujours des coups de cœur. Et n'oubliez pas, les livres s'empruntent en bibliothèque et s'achètent en librairie.
Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu y découvres, ça paraît infini pour un truc si petit. Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu y découvres, ça paraît infini pour un truc si petit.